Très bonne fin de semaine à toutes et à tous. Je vous salue et vous souhaite la bienvenue à l'écoute de ce magazine rétrospectif de l'actualité économique de la semaine sur votre radio. L'économie de la RDC est en crise et cette émission va vous faire vivre les discussions qu'il y a eu mercredi à Kinshasa au centre Roméo Golf à l'issue de la publication par la Banque mondiale de son quatrième rapport du suivi de la situation économique et financière de la RDC pour l'année 2016. Pourquoi cette crise? Quelles sont les causes et quelles sont les solutions préconisées pour en sortir? Gros plan dans cette émission. Dans les autres informations de la semaine, nous parlons du projet de reboisement de la forêt du Miombo. C'est dans le sud-est de la province du Haut-Katanga. Vous suivrez également dans cette émission les explications du directeur général de la compagnie aérienne Congo Airways qui avait pris la décision de réduire de 17% les salaires des cadres et agents de cette compagnie. Voilà pour les titres, messieurs et dames, encore une fois, bonne fin de semaine et bienvenue à Panorama économique sur Radio Okapi.
Panorama économique, le dossier.
Une seule et grande information de la semaine dans notre dossier, la crise que traverse l'économie de la RDC. Et pour en parler, je vous ramène au centre Roméo Golf où la Banque mondiale a présenté mercredi la quatrième édition de son rapport de suivi sur la situation économique et financière en RDC. Le rapport a porté sur l'économie de la RDC pour l'année 2016. C'est le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC qui a pris en premier la parole à l'assistance constituée des ministres, des députés, sénateurs, des coordonnateurs de différents projets qu'elle finance, le corps scientifique et la presse. Amadou Moustapha Ndiaye dit ceci.
C'est ici pour moi le lieu de mettre l'accent sur cette autre dimension de nos interventions en République démocratique du Congo qui porte sur la production et le partage de connaissances. C'est dans ce cadre que nous accordons une attention particulière aux travaux analytiques susceptibles de nous aider à mieux conseiller sur les politiques publiques et à mieux orienter notre soutien en faveur de la RDC. Les échanges d'aujourd'hui arrive au moment où la RDC traverse une crise économique dans un contexte politique particulier de l'histoire du pays. Comme pour beaucoup de pays d'Afrique, cette crise est une opportunité pour tous les acteurs politiques et économiques du pays de rechercher et de mettre l'accent sur des politiques pertinentes susceptibles de renforcer la résilience de l'économie du pays en le dotant de moyens nécessaires pour absorber les chocs internes et externes. Ce rapport nous rappelle qu'au-delà de l'agenda politique, il faut continuer à mettre l'accent sur la gouvernance économique afin d'atténuer les effets de la crise économique au moment où des efforts sont menés pour stabiliser la scène politique. C'est pour cette raison que cette quatrième édition est abordée sous le thème « Choc exogène, stabilité macroéconomique et développement, options de politique économique ». Comme vous le savez, l'économie de la RDC subit les effets de la baisse des cours mondiaux de ses matières premières d'exportation et du ralentissement des économies de ses principaux pays partenaires. Certains paramètres et variables de son économie s'en retrouvent négativement affectés, comme le confirment différents documents et rapports du gouvernement qui présentent l'ampleur de cette crise. Le plus important pour nous aujourd'hui, ce n'est pas seulement de vous faire part de notre lecture de la situation que traverse la RDC, mais plutôt de partager et de discuter avec vous sur les politiques publiques pertinentes qui permettraient à l'économie du pays de répondre aux défis. Pour rappel, l'édition précédente du même rapport avait montré des performances macroéconomiques positives du pays, mais avait également souligné les vulnérabilités de l'économie congolaise face au choc exogène. Cette nouvelle édition reflète un contexte économique déprimé qui confirme que cette vulnérabilité a déjà débouché sur une crise, avec des indicateurs macroéconomiques ayant rompu avec les équilibres fondamentaux de l'économie difficilement obtenus au cours des dernières années, après tant d'efforts considérables fournis par les autorités congolaises. Il faudrait éviter que le choc macroéconomique ne compromettent les gains fragiles réalisés par la RDC en matière de développement économique et humain et ne remettent en question les objectifs de diversification de l'économie et de développement à long terme. Notre équipe d'experts, sous la direction de l'économiste en chef Emmanuel Pinto Moreira ici présent, va vous donner de plus amples détails sur ce rapport. Et je profite de l'occasion pour saluer le travail qui a été accompli et je forme le vœu que ces conclusions contribuent aux décisions sur les choix de politique économique en faveur d'une croissance durable et d'une prospérité partagée en République démocratique du Congo.
La crise économique est là et elle est réelle. Elle risque de se maintenir dans la durée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'économiste en chef de la Banque mondiale pour la RDC qui le dit. On écoute Emmanuel Pinto Moreira.
Je vais commencer en disant ceci, que la République démocratique du Congo est en crise. La République démocratique du Congo est en crise, la crise est profonde et la crise risque d'être durable. Je vais illustrer ce premier message du rapport en prenant quelques exemples sur les indicateurs macroéconomiques de la RDC. Premièrement, la croissance économique était très forte de 2010 et 2015, de plus de 7% en moyenne. Et bien aujourd'hui, les estimations que nous avons de la croissance économique à la fin 2016 sont de 2,5%. Si on compare ce taux de croissance de 2,5% à la croissance de la population de la RDC, qui est quasiment de 3%, et bien on a un taux de croissance par tête de zéro, voire négatif. Deuxième indicateur, l'inflation. Vous savez que la RDC a eu la stabilité des prix ces dernières années, avec un taux d'inflation qui oscillait entre, en 2015 par exemple, moins de 1%. Aujourd'hui, à fin décembre, on a un taux d'inflation de plus de 11%. Raison fondamentale, deux raisons, dépréciation du taux de change, qui se traduit, n'est-ce pas, par une pression sur les prix, mais également le fait qu'il y a eu des mesures de politique économique qui n'ont pas toujours été appropriées, puisque, n'est-ce pas, comme vous le savez, il y a eu la suspension des importations de ciment qui a entraîné un doublement, n'est-ce pas, du prix de ciment. Troisième indicateur, c'est le budget. La RDC a eu ces dernières années une forme d'équilibre budgétaire, mais lorsque l'on regarde à fin 2016, selon les chiffres de la Banque Centrale du Congo, et je suis content de voir qu'il y a des collègues de la Banque Centrale du Congo qui sont ici, le modérateur lui-même de la Banque Centrale du Congo, eh bien, aujourd'hui, à fin 2016, le déficit budgétaire de la RDC s'élève à peu près à 558 millions de dollars, donc 1,6% du PIB. On passe donc d'un équilibre budgétaire, et même des excédents budgétaires, à des déficits budgétaires. Un autre indicateur, c'est le taux de change. Le taux de change était relativement stable, que ce soit sur le marché officiel ou le marché parallèle. Eh bien, le taux de change oscillait sur le marché officiel entre 920 et 943 Congolais pour un dollar. Mais aujourd'hui, on assiste à une dépréciation de ce taux de change parce que, comme vous le savez, par exemple, la Banque Centrale du Congo, selon les chiffres de la Banque Centrale du Congo, le taux officiel s'est déprécié de plus de 24%, le taux sur le marché parallèle, plus de 26%. Trois raisons principales. La première raison, comme vous le savez, c'est le choc sur la balance des paiements, puisque vous savez qu'il y a eu la baisse des cours des matières premières, comme l'a dit tout à l'heure, dans son mot introductif, le directeur des opérations de la Banque mondiale. Deuxième phénomène, ce sont les injections de liquidités massives qui entraînent des pressions sur la demande de devises. Et enfin, troisième raison, et là c'est un peu technique, c'est ce que nous développons, nous les économistes, la question des anticipations. Les gens anticipent que le taux de change risque de se déprécier et préfèrent donc des dollars et n'est-ce pas se débarrasser du franc congolais. Un autre facteur important, ce sont les réserves internationales. N'est-ce pas? Un autre indicateur, ce sont les réserves internationales. La RDC avait des réserves internationales. Je dois l'avouer qu'il n'était pas très fort à l'époque, puisqu'on avait à peu près 6 semaines, 8 semaines, 2 mois d'importation en termes de réserves, n'est-ce pas, d'importation de biens et services. C'est vrai que le minimum, selon les calculs du Fonds monétaire international, disent qu'il fallait, pour un pays comme la RDC, avoir à peu près 3 mois. Mais toujours est-il, ça cela détient, toujours est-il que la RDC avait quand même, n'est-ce pas, à l'époque, des réserves internationales de près de 8 semaines d'importation de biens et services. Aujourd'hui, ces réserves d'importation ont considérablement baissé, puisqu'elles ne sont que de l'ordre d'à peu près 3 semaines d'importation de biens et services. Donc 3 semaines, c'est très peu. Donc il y a une baisse considérable. Les réserves qui étaient à peu près de 1,4 milliard de dollars encore l'année dernière sont aujourd'hui à peu près à 845 millions de dollars. Donc vous voyez, donc, au niveau des réserves internationales, il y a une baisse. Or, s'il n'y a pas des réserves, si les réserves disparaissent, il y a un véritable problème pour les importations. Donc la RDC est en crise et il faut le dire aux Congolais, il faut le dire franchement. Et ce qui m'embête personnellement en tant qu'économiste en chef de la Banque mondiale, c'est que déjà en 2014, nous attirions l'attention du gouvernement. Lorsque nous avons présenté le rapport de la situation économique et l'économiste principal de la Banque mondiale, Chagui Bourabide, ici, nous avions dit déjà que les performances macroéconomiques que l'on observait, les fameux taux de croissance très élevés du 7%, etc., n'étaient en fait qu'une croissance de rattrapage non inclusive et que la vulnérabilité des économies congolaises pouvait se traduire très rapidement
par une crise. Nous avons même parlé de pré-crise, n'est-ce pas? Aussi bien en interne à la Banque mondiale que l'on a présenté à ce rapport. Donc, la RDC est en crise. Alors ça, c'est le premier message du rapport. La RDC est en crise.
Les causes de cette crise, selon la Banque mondiale, sont entre autres la baisse des cours des matières premières que la RDC exporte, l'arrêt de production par le groupe suisse Glencore pour 18 mois, le ralentissement de la demande chinoise qui consomme à elle seule 40% de produits miniers congolais, le déficit budgétaire, la dégradation des infrastructures routières en RDC constituent également une des causes à cette crise. Les débats ont suivi les différentes présentations. D'abord, le directeur général de la Banque centrale du Congo en charge de la politique monétaire et des opérations bancaires, Jean-Louis Kayembe Wakayembe, a fait cette observation.
Il y a la crise de la balance des paiements, après crise budgétaire, crise de la dette, ensuite la crise d'échange et la crise sur l'économie réelle et l'interaction sur les toutes ces crises-là, ça conduit plus ou moins à une crise sociopolitique. Donc, on connaît les vulnérabilités depuis 60 ans, on connaît les schémas, l'impact de ces chocs sur l'économie congolaise, mais finalement, on est toujours surpris lorsqu'il y a une crise qui survient. Donc, cela montre qu'il y a une absence d'une démarche prospective et laisse penser une approche, une dominance, la dominance d'une approche passive ou la stratégie de l'autruche, alors que nous devions plutôt recommander une approche réactive. Alors, qu'est-ce que le rapport, par rapport à cette approche qui devait être réactive, qu'est-ce que le rapport préconise comme solution? Donc, nous restons dans cette approche, la stratégie sapeur-pompier. On attend que là, on sait qu'il y a des vulnérabilités, mais on ne se prépare pas à faire face à ces vulnérabilités. On attend que ce choc arrive et on passe au sapeur-pompier. Parce que toutes les politiques qui sont, les mesures qui sont proposées, ce sont des mesures de court terme pour faire face à une situation ponctuelle, des crises. Mais il n'y a rien vraiment en termes de stratégie de long terme. Deuxième fait stylisé, c'est que chaque fois, la crise nous surprend et nous sommes très lents pour organiser la riposte. Nous sommes très souvent limités dans l'organisation de la riposte. Donc le rapport n'élabore pas suffisamment sur une manière ordonnée d'organiser la riposte. Nous avons connu la crise 2008-2009. Nous étions là et il y a des commissions qui ont été mises en place. Pratiquement, c'est le même scénario. Chaque fois qu'il y a crise, nous sommes surpris et nous mettons en place des commissions, nous prenons des mesures. Et subitement, l'année qui vient, lorsque la crise passe, on oublie tout ce qu'on a arrêté comme mesure et on passe à autre chose. Donc, ces limites-là, c'est quand même un souci des résultats chaque fois qu'il y a crise. Troisième fait stylisé, c'est en fait, il n'y a pas longtemps ici, on nous avait laissé croire que lorsqu'on accumule beaucoup de réserves, que ce soit des réserves internationales, des réserves budgétaires, on devient, et on a un niveau de croissance assez soutenu, on devient résilient. Et donc, il y a même des papiers qui ont circulé pour dire que nous sommes déjà devenus résilients. Pas seulement au niveau de la RDC, même au plus haut niveau de l'Afrique. Il y a des conférences qui s'étaient tenues, par exemple, à Maputo, en mai 2014, qui avaient comme conférence de haut niveau, comme titre, la montée en puissance de l'Afrique. Donc tout ça, on a compris que face à ces chocs, tout ça, ce n'était qu'un mirage. Donc l'Afrique n'est jamais montée en puissance. Donc pour dire l'accumulation des réserves budgétaires et monétaires ne peut pas nous rassurer une certaine résilience. Donc il faut voir plus que ça. C'est un problème de structure. Quatrièmement, chaque fois qu'il y a crise, les intervenants l'ont dit, donc les rapports l'ont dit, la variable d'ajustement au niveau de la politique budgétaire, c'est la contraction des dépenses, au niveau de dépenses en capital. Alors donc, il n'y a pratiquement rien de nouveau, alors que l'on sait, et les rapports l'ont bien souligné, qu'en réduisant les dépenses en capital, on affecte la croissance. J'ai conclu donc trois enseignements. Carrément, il faut réduire la dépendance vis-à-vis d'un seul produit, qui est le cuivre ou deux, le cobalt, et d'un seul partenaire. C'est ça en fait la leçon que j'ai tirée. Deuxième leçon, la nécessité d'explorer des nouvelles boîtes à outils pour de meilleures analyses économiques et de meilleures politiques économiques. Et enfin, mener des politiques économiques pour mieux se préparer aux crises à venir.
Les autres observations soulevées par d'autres intervenants sont entre autres celles du stratège Alkitenge et de M. Modekereza du Sénarec. On écoute.
Le code minier, bravo. C'est une très bonne confession aujourd'hui et je pense que c'est une très très bonne chose que la Banque mondiale soit celle qui dise à haute voix aujourd'hui, il faut revoir ce code minier. Un des grands péchés du code minier, c'est cette disposition qui dit par exemple que 60% des revenus ne reviennent pas au pays et peuvent être gardés à l'extérieur. C'est une aberration incroyable, alors que nous avons des sérieux problèmes de relance de paiement. Mais au-delà de ça, parlons des chiffres. J'ai horreur à regarder les chiffres relatifs. Lorsqu'on parle aujourd'hui d'un pays comme le Japon, il a 240% d'endettement par rapport à son PIB. Personne n'a jamais dit que ce pays est très riche et très endetté. La vérité là-dedans, c'est que les chiffres relatifs ont ceci de particulier. Ils ne parlent pas de la base. Lorsque aujourd'hui vous parlez d'un pays comme le Congo et on dit qu'il a eu des périodes fastes et qu'il a eu des revenus élevés, la réponse est que nous n'avons jamais eu des revenus réellement élevés. Ils sont élevés par rapport au passé récent. Et ça ne permet pas aujourd'hui justement que les gens soient en mesure de pouvoir prendre des dispositions réelles qui nous permettent d'avoir une soutenabilité. Le progrès relatif pose la question des masses réelles disponibles. Au-delà des problèmes de gouvernance, il faut reconnaître que les moyens disponibles dans ce pays sont quand même très faibles. Nous sommes près de 80 millions de personnes sur un territoire de 2 345 000 km². Il faut admettre qu'avec les moyens dont nous disposons, même un magicien ne peut pas faire quoi que ce soit. Alors moi, j'ai seulement un point de vue simple. C'est celui de dire, parce que nous parlons des revenus miniers, et tout le monde sait très bien que les revenus miniers sont épuisables, puisque les ressources elles-mêmes sont épuisables. Pourquoi nous ne regardons pas les choses différemment? Nous avons dans ce pays 106 000 mégawatts de potentiel hydroélectrique. Les calculs montrent clairement que même si nous faisons une perte de 30% vendue, ça fait près de 75 milliards de dollars de revenus annuels. Pour quelle raison nous ne mettons pas ça au devant? Nous savons très bien que technologiquement parlant et financièrement parlant, nous n'avons pas les capacités à nous seuls de pouvoir le développer. Pourquoi nous ne mettons pas ça dans un plan prospectif qui puisse permettre de pouvoir faire un quantum leap? Parce que moi, je pense simplement que les croissances économiques classiques ne nous donneront pas de réponse. Parce que la base de notre économie est très très faible. Si je le dis, c'est parce que je pense que ce pays ne dispose pas d'un plan stratégique de développement. Et si nous ne faisons pas un arbitrage sur 15 ans minimum pour être en mesure d'avoir, un, les 80% de notre population qui sont en milieu rural, qui n'ont aucun service, ni dans l'éducation, ni dans la santé, et en faire un capital humain productif, et si nous ne prenons pas 15 ans pour nous donner des infrastructures de base correctes de manière ambitieuse, je crois que nous allons perdre notre temps, comme disait le directeur de la Banque Centrale tout à l'heure, année après année, on va revenir sur exactement la même situation. Mon point de vue serait de dire, et ce n'est pas un appel à vous, parce que ce n'est pas nécessairement votre travail, c'est un appel au gouvernement et aux responsables de ce pays, il faudrait qu'à un moment donné ou à un autre, on se dise, prenons 15 ans pour bondir. La croissance ne nous donnera pas de réponse. Les Anglais le disent de manière assez claire. We need a massive quantum leap. On doit bondir pour atteindre un niveau minimum pour être en mesure de croître normalement. Et ce pays a de quoi bondir. Et à mon avis, je ne vois pas une ressource minière quelconque capable de nous faire bondir. Ce qui peut nous faire bondir, c'est notre capacité hydroélectrique. Et aujourd'hui, tout le monde sait très bien que c'est une capacité inépuisable, et que c'est une capacité propre. Et les tendances mondiales démontrent clairement qu'on peut se mettre dessus.
Je m'appelle Constant Coco Moutekereza, je suis le coordonnateur du CNAREC, le Secrétariat National pour le renforcement des capacités. Tout en étant d'accord avec M. Pinto, je suis quand même surpris de ce qu'aucun des orateurs n'a parlé du secteur de l'agriculture. Alors que nous parlons des chocs exogènes, en conséquence, si l'agriculture, à part Dieu qui nous donne la pluie tous les jours, dépend de nos efforts, de notre grand peuple, pourquoi l'agriculture ne reviendrait pas encore, comme je l'ai dit, auprès des Premier ministre avec lequel j'ai été, l'agriculture semblait être toujours portée en premier comme le moteur de développement de la RDC. Donc je voulais revenir sur ce point pour voir quelle est sa place actuellement en tant que moteur de développement de la RDC. Et mon deuxième point, et non le moindre, étant au renforcement de capacités, je me suis dit, tout ce que nous venons de dire ici, si nous n'avons pas la capacité de renforcer les décideurs premiers, en l'occurrence le Parlement, la loi ou le code minier ne sera peut-être jamais mis, ni revu, ni en exécution tel qu'il se doit. Il en est aussi de l'exécutif, tant au niveau national qu'au niveau provincial. Je crois que les infrastructures avec des PPP, même les provinces peuvent faire des routes provinciales qui peuvent les aider à pouvoir répondre à ce point-là, et même au niveau agricole. Alors, pour ma part, je proposerais vraiment qu'après ceci, nous ayons de stratégies et des projets de renforcement de capacités pour que ceci soit répété auprès des parlementaires, auprès de l'exécutif, afin que nous voyons comment vraiment nous pourrons décoller, certainement avec les mines, mais aussi avec un grand secteur comme celui de l'agriculture. Donc j'ai fait une proposition et j'ai posé une question sur le positionnement ou la place accordée à l'agriculture en ce moment.
Jean-Louis Bongoumou, ingénieur. Et vous m'excuserez, monsieur le modérateur, de reprendre un peu l'intervention de monsieur Tengue, je crois. Il a parlé de bondir. Et moi, je voudrais, dans des termes citoyens, reprendre cette préoccupation. N'étant pas économiste, je voudrais vraiment les reprendre dans des termes citoyens. Deux mots, La première chose, c'est de dire que quand nous parlons des crises aujourd'hui, au niveau macroéconomique, au niveau gouvernemental, le citoyen nous dit qu'il est en crise permanente. Donc, il n'y a pas de crise. La situation est toujours la même. Et je pense que c'est Emmanuel qui l'a dit. Il y a quelques années, ils avaient insisté pour que le gouvernement prenne mesure de manière à obtenir une croissance inclusive. C'est le défaut d'inclusivité dans la croissance qui fait que la situation est ressentie au niveau du citoyen comme étant une crise permanente. Deuxième chose, alors c'est la question. Emmanuel et à toute l'équipe, franchement, en âme et conscience, est-ce que vous pourriez nous dire, avec les éléments en votre possession au regard de l'analyse, que la RDC aura son émergence et son développement en 2030 et 2050 ou peut-être en 2130 et 2150? Je m'exprime et je l'explique. Vous nous avez rappelé, il y a quelque temps, effectivement, dans la même salle, et je crois que c'est M. Kitenge qui a parlé de la résilience, du pachyderme. La RDC, c'est un pachyderme. Et comme mon nom, c'est l'éléphant, je l'identifie à l'éléphant. Ce pachyderme résilient, oui, par sa population, par son espace territorial, par ses dimensions, on peut considérer que le pays est résilient. Mais l'économie, en fait, c'est une économie de plus. Je pense que c'est un opérant français qui avait fait la remarque à M. Zinsou dans un magazine de Jeune Afrique pour dire « Ne soyez pas si afro-optimiste que ça, monsieur. » Pourquoi ? Il a dit « La garantie qu'une cuisse de puce offre est très faible à la garantie qu'une cuisse d'éléphant peut offrir. » Pourquoi ? Parce que la puce peut grandir 1000 fois plus vite que l'éléphant. L'impact est très faible. Alors, je voudrais que nos économistes nous aident, nous, citoyens, à percevoir la lecture que les gouvernants font de l'action gouvernementale. C'est ainsi que quand nous parlons des performances, j'ai beaucoup apprécié l'intervention du directeur de cabinet du ministre des Finances qui nous donne des chiffres. Oui, il parle de 1986, ce qu'on a eu comme pic avec la production de la GECAMIN, en termes de contribution dans le budget de l'État. Mais il est bon, mesdames et messieurs les économistes, quand vous faites l'analyse des performances de l'action gouvernementale, parce que on fait même, on balaye la situation de 1960 en 2016. Nous l'avons lu dernièrement dans le numéro de une publication du journal Le Potentiel, pour ne pas le citer. Et il part de l'évolution du PIB pour dire voici qui peut avoir été meilleur premier ministre dans ce pays au cours des 56 dernières années. Et on affiche tant branché, on compare des dollars courants de 1960 à des dollars courants de 2016. Et c'est des économistes qui nous font ce tableau-là. Poser la question à la population, la mémoire peut-être peut nous trahir, mais étudiant en 1970 à l'université de Kinshasa, la bourse c'était quoi? 12 zaïrs, 35 zaïrs, 17 zaïrs, et cela correspondait à un pouvoir d'achat qui n'a rien à voir avec les 300 dollars par exemple. Donc quand vous affichez ce tableau, dites que le PIB per capita était de 300 dollars en 1960 et vous le comparez aux 400 dollars par exemple en 2016 et vous nous dites que la situation s'est améliorée. Vous provoquez en ce moment-là la population qui souffre. Donc,
merci, merci.
Merci. Donc, aujourd'hui, je termine.
Il faut chuter, oui.
Oui, je termine en disant qu'effectivement, comme l'a proposé M. Kitenge, il faut une réflexion. Sinon, on va de choc en choc. Ces chocs-là, c'est nous, gouvernants, qui les ressentons, qui les vivons. La population ne connaît pas cela et c'est tout à fait normal. Il faut un plan d'action qui permet au pays de disposer d'une base digne, base économique, digne d'un pachyderme. L'économie que nous avons aujourd'hui, c'est une puce. On peut restructurer. Alexandre a parlé même de d'affectation, chaque secteur dit non, la culture est négligée, l'éducation est négligée. Non, on peut restructurer la pauvreté dans tous les sens, on ne va pas créer les richesses. Donc, même si on vous donne à l'éducation étudiante 30% du budget actuel, c'est rien. Donc, il faut plutôt avoir un budget d'éléphant pour un pays éléphant, de manière à ce que même si vous avez demain 5%, vous aurez de quoi supporter le programme
2. Merci. RDC émergence en 2030 et non en 2130.
Et la réponse du directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC aux différentes préoccupations soulevées avant de se faire compléter par le vice-ministre des Finances. On les écoute.
Je voulais d'abord remercier en fait toutes les interventions qui ont mis sur la table en fait des points qui animent nos discussions internes à la Banque mondiale. La dernière discussion que nous avons eue, c'était justement hier où les mêmes problématiques ont été posées. Je crois que ce que je peux dire, c'est que vous avez tous raison. Et la question, c'est de savoir comment aller de l'avant. Et je voudrais juste aborder deux petits points. Le premier point, c'est sur la diversification. Qu'il s'agisse des ressources en eau, qu'il s'agisse de l'énergie, qu'il s'agisse de l'agriculture, tout ça c'est des pistes de diversification. Mais la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est comment exploiter ces pistes de diversification. Il faut que la RDC se donne les moyens de sa diversification. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons l'aide publique au développement ne permettra pas à la RDC d'exploiter ces pistes de diversification. Donc la principale piste, ça va être les recettes de l'État. Et aujourd'hui, la branche sur laquelle la RDC est assise pour mobiliser les recettes, c'est le secteur minier. C'est pour cela que nous disons que, comme porte d'entrée, il faut mobiliser des recettes supplémentaires, additionnelles, à partir du code minier pour permettre de financer la diversification. Donc lorsque nous insistons sur le code minier, cela ne veut pas dire que nous négligeons l'agriculture, nous négligeons le secteur énergétique ou nous négligeons le secteur de l'eau. Donc je pense que ça permet de clarifier un peu le message que le rapport a voulu faire passer. Le deuxième point et le dernier sur lequel je vais insister, j'ai bien noté 15 ans pour rebondir. Et nous sommes tout à fait d'accord. Et la dernière intervention aussi abonde dans ce sens. Et pourquoi? Parce que, effectivement, comme l'a dit le directeur général de la Banque centrale, c'est les mêmes analyses que nous constatons. C'est les mêmes priorités que nous constatons. Maintenant, la question, c'est de savoir comment faire les choses différemment. Et donc, lorsque nous regardons ce qu'il y a lieu de faire, c'est vrai que cette analyse, c'est beaucoup plus une analyse conjoncturelle, mais elle vient compléter toutes les autres analyses que nous faisons. Et Emmanuel Pinto a abordé un peu cet aspect en disant que nous sommes en train de finaliser un rapport systématique pays où lorsque nous avons discuté pas plus tard que cette semaine à la banque, c'était de dire c'est les mêmes symptômes que nous voyons. Maintenant, la question, c'est comment faire les choses différemment. Et nous sommes en train de mener ces réflexions dans le contexte où le cycle de partenariat entre la RDC et la Banque mondiale prend fin, ce cycle actuel, cette année. Donc nous devons aborder un nouveau cycle. Et ce sont les questions que nous nous posons, de telle sorte que d'ici 4 ans, 5 ans, qu'on ne se pose pas les mêmes questions.
Nous partageons cette analyse ainsi que les politiques proposées pour amortir l'impact de ces chocs exogènes, notamment les renforcements de la mobilisation des recettes domestiques. À ce sujet, je me dois de rassurer que le ministère des Finances travaille dans le sens des recommandations relatives à la limitation des exonérations et à la lutte contre la fraude.
En termes de propositions en perspective pour sortir de cette crise, la Banque mondiale préconise que la RDC rentre dans de nouveaux programmes économiques avec elle, c'est-à-dire la Banque mondiale, et son institution sœur qui est le Fonds monétaire international, et cela pourrait bénéficier au pays en termes d'appui budgétaire. Le gouvernement peut aussi réduire sensiblement ses dépenses et accroître alors les recettes locales. Et c'est pour cela que le gouvernement doit revoir son code minier, ce qui va lui permettre de faire des recettes supplémentaires. Et pour tous ceux qui seraient intéressés de suivre cette présentation sur le suivi de la situation économique et financière de la RDC pour l'exercice 2016 qui étale cette crise que connaît le pays, le rendez-vous peut être pris pour le 9 février et ce sera à l'Université de Kinshasa. Dans dans les autres informations de la semaine avant de terminer, le Fonds de l'environnement mondial et le ministère de l'environnement ont lancé mercredi à Lubumbashi le projet de gestion communautaire des forêts de Miombo dans le sud-est de la province du Katanga. Dans la province du Haut-Katanga, la forêt de Miombo est localisée dans la partie sud-est dans 5 zones se trouvant dans un rayon de 35 km de la ville de Lubumbashi. Ce projet prévu pour 5 ans nécessite près de 19 millions de dollars américains, dont 4 millions sont déjà rendus disponibles par le FEM. Michel Dissomona explique comment l'organisation entend mobiliser le montant qui reste. Il est au micro de Nelly Kabena.
À l'heure actuelle, nous avons discuté sur les partenaires de cofinancement. Parce que lors de l'élaboration du projet, 7 à 8 partenaires se sont inscrits pour accompagner l'exécution de ce projet. Et là, on était en train de discuter maintenant sur la praticabilité, sur comment opérationnaliser les engagements qui avaient été pris par ces 8 partenaires de cofinancement de ce projet. Qu'est-ce qu'ils vont donner pendant la première année? Est-ce qu'ils vont donner des voitures? Est-ce qu'ils vont donner des experts? Ainsi de suite. Et qu'est-ce que le projet va aussi donner comme financement additionnel pour atteindre les objectifs de gestion durable des forêts de Miombo. Un travail a été fait de manière participative depuis l'élaboration du projet et on a des partenaires qui sont cités comme des partenaires potentiels. Et à l'heure actuelle, la FA en RDC ainsi que son bureau à Rome, nous avons développé des critères de sélection des partenaires que nous n'avons pas encore rendus publics et après, ça sera ces critères-là qui seront appliqués pour la sélection de partenaires.
Nous vous avons également parlé cette semaine de la décision de la direction générale de la compagnie aérienne Congo Airways. Cette décision consistait à réduire de 17% les salaires des agents et cadres. Nous avons aussi approché pour cela le directeur général qui s'est expliqué sur la question cette semaine sur votre radio. Je vous propose de réécouter Désiré Balaziré Bantou, qui est interrogé par Jeff Ngoy.
Moi, j'avais reçu la mission de pouvoir redresser ces sociétés. Par redressement, ça suppose arriver à pouvoir maîtriser les charges, qu'on puisse les réduire, également aussi qu'on puisse ajuster les niveaux d'effectifs, parce que ce n'était pas normal qu'une société qui commence puisse avoir plus de 426 agents. Donc, à l'époque, il y avait 2 avions qui volaient, et puis c'est comme ça qu'on a demandé qu'on arrive à pouvoir trouver un bon effectif. Vous savez que sous d'autres cieux, la moyenne par avion, donc d'effectifs et du personnel, c'est au moins 35 agents. Mais nous comprenons que si chez nous, nous ne sommes pas assez développés, nous n'avons pas tous les outils nécessaires. C'est comme ça que on peut arriver à avoir donc une moyenne peut-être au moins peut-être de 50 ou bien de 70 agents. Bon, maintenant sur cette base, j'avais reçu mission de pouvoir donc régler cette question-là du personnel. C'est ainsi que le gouvernement m'avait donné l'autorisation à travers le ministère du Travail, Emploi et Prévention Sociale donc de pouvoir réduire les effectifs. Il m'avait donné l'autorisation de réduire jusqu'à 199 agents. J'ai fait partir 51 agents. En ce qui concerne la diminution de salaire, moi-même qui vous parle, moi quand je suis arrivé, bon, on a trouvé que les salaires que mon prédécesseur touchait et les avantages, on a réduit. Donc on m'a réduit dans pratiquement de 30%. Et puis on a trouvé que pour l'ensemble des agents, il fallait également qu'on arrive à pouvoir faire don de la sorte parce que quand la société commence, il y a au moins des sacrifices qu'on doit devoir consentir. Et puis maintenant, bon, quand nous allons devoir grandir, hein, il y a moyen de pouvoir accorder des salaires décents. Mais c'est pour des raisons purement stratégiques que cela avait été fait. Mais ce n'est pas pour chercher à nuire ou bien pour montrer que la société ne va pas.
Merci Jeff et merci aussi à vous, notre invité Désiré Balaziré Bantou, directeur général de Congo Airways. Et c'est sur ces propos que nous allons refermer Panorama économique de cette semaine. Jean-Noël Mokondo a assuré la prise de son. Je suis Daniel Tambinzoni, je vous souhaite un agréable week-end en compagnie de votre radio.